Bonjour chers amis, vous le savez sans doute, mais je vous le dis quand même, nous sommes le 14 août. Vous écoutez la Daily Audio Bible et je suis votre hôte, Hervé Anneville. Nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui pour lire la Bible et Sabelle, notre lectrice, va reprendre là où elle a terminé hier en lisant d'une version de la Bible qui s'appelle la Bible en français courant. D'abord, elle lira du livre de Néhémie qui nous raconte l'histoire du peuple de Dieu. Et donc, c'est ce qu'elle fera dans les instants qui suivent, puisque je lui donne la parole.
Néhémie, chapitre 7 au chapitre 9, verset 21. Quand arriva le septième mois de l'année, tous les Israélites vinrent des villes où ils s'étaient installés. Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent d'un commun accord à Jérusalem, sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi que le Seigneur avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Esdras l'apporta devant l'assemblée composée des hommes, des femmes et des enfants en âge de comprendre. De l'aube à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. Esdras était debout sur une estrade en bois, dressée pour la circonstance. Il avait à sa droite Matitia, Shema, Anaïa, Uria, Hilkia et Maaseia, et à sa gauche Pedaïa, Michaël, Malchia, Hashum, Hashibadana, Zacharie et Meshulam. Il était donc placé plus haut que l'assemblée. Lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde le vit et se tint debout. Esdras remercia le Seigneur, le grand Dieu, et tous répondirent « Amen, Amen » en élevant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer le Seigneur. Ils se redressèrent et les Lévites, Yeshua, Bani, Sherebia, Yami, Akoub, Shabetai, Odia, Maaseia, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan et Palaya commencèrent à leur enseigner la loi. Il lisait dans le livre de la loi de Dieu de manière distincte et en donnant des explications, afin que chacun comprenne ce qui était lu. Toute l'assemblée se mit à pleurer en entendant cette lecture. C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, et les Lévites qui expliquaient le texte leur dirent « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ce n'est pas le moment de vous affliger et de pleurer. » Esdras ajouta « Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse, la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. » Les Lévites, eux aussi, apaisaient le peuple en disant « Calmez-vous, ce jour est consacré à Dieu, ne soyez pas dans la tristesse. » Alors, tous rentrèrent chez eux pour manger et boire. Ils partagèrent leur repas avec ceux qui n'avaient rien et se livrèrent à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris le message qu'on leur avait communiqué. Le jour suivant, tous les chefs des familles israélites, les prêtres et les lévites se rassemblèrent autour d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus en détail les enseignements de la loi. Dans cette loi que Dieu avait communiquée par l'intermédiaire de Moïse, ils trouvèrent le passage qui ordonne aux Israélites de vivre dans des huttes pendant la durée de la fête des huttes au septième mois. Cette fête doit être annoncée par une proclamation publiée dans toutes les villes, y compris Jérusalem. La population est invitée à se rendre dans la montagne et à en ramener les branches d'olivier cultivées et sauvages, de myrtières, de palmiers et d'arbres touffus pour s'en faire des huttes, comme cela est écrit. Alors les Israélites allèrent chercher des branchages pour se faire des huttes, les uns sur le toit, en terrasse de leur maison, d'autres dans la cour de leur maison, d'autres encore dans les cours du temple, d'autres enfin sur la place de la porte des eaux et sur celle de la porte d'Éphraïm. Tous ceux qui étaient rassemblés là, ceux qui étaient revenus en exil, se construisirent des huttes et s'y installèrent. Ce fut l'occasion de très grandes réjouissances, car les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis l'époque de Josué, fils de Nun. Chacun des jours de la fête, du premier au dernier, on lut un passage dans le livre de la loi de Dieu. La fête dura 7 jours et se termina le 8e jour par une assemblée solennelle, selon la règle établie. Le 24e jour du mois, les Israélites se rassemblèrent pour un jeûne. Ils portaient des vêtements en étoffe grossière et avaient la tête couverte de terre. Ils se tinrent à l'écart des non-juifs et confessèrent qu'ils avaient péché, eux et leurs ancêtres. Ensuite, ils se relevèrent et écoutèrent debout, pendant 3 heures, la lecture faite dans le livre de la loi du Seigneur leur Dieu. Pendant 3 autres heures, ils se tinrent inclinés devant le Seigneur Dieu pour lui demander pardon. Sur l'estrade réservée aux Lévites, Yeshua Bani, Kadmiel, Shebania Bouni, Sherebia, Bani et Kenani se relevèrent et demandèrent à grands cris le secours du Seigneur leur Dieu. Puis les Lévites Yeshua, Kadmiel, Bani, Hashabnea, Sherebia, Odia, Shebania et Petaya s'écrièrent: debout, remerciez le Seigneur votre Dieu, remerciez-le en tout temps. Seigneur, que chacun loue ton nom glorieux, dont la grandeur dépasse tout ce que l'on peut exprimer. C'est toi qui es le Seigneur, toi seul. Tu as fait le ciel immense et toutes les étoiles, la terre et tout ce qui t'y trouve, les mers et tout ce qu'elles contiennent. Tu donnes la vie à chaque créature. Devant toi s'inclinent les puissances célestes. C'est toi, Seigneur Dieu, qui as choisi Abraham. Tu lui as fait quitter Ur en Chaldée et tu lui as donné le nom d'Abraham. Tu as constaté sa fidélité envers toi, alors tu as conclu une alliance avec lui. Tu as promis de donner à tes descendants le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Jébusites et des Girgachites. Tu as tenu ta promesse, car tu es fidèle aussi. Tu as vu en Égypte la souffrance de nos ancêtres. Tu les as entendus appeler à l'aide sur le bord de la mer des Roseaux. Tu as réalisé des prodiges extraordinaires dirigés contre le roi d'Égypte, contre les gens de son entourage et toute la population de son pays, car tu connaissais l'orgueil des Égyptiens à l'égard de nos ancêtres. Grande fut alors ta renommée, elle subsiste encore aujourd'hui. Tu as fendu la mer devant les Israélites pour qu'ils la traversent à pied sec. Tu as jeté dans l'abîme ceux qui les poursuivaient. Ils ont coulé comme une pierre dans l'eau profonde. Le jour où tu as conduit ton peuple par une colonne de fumée et la nuit par une colonne de feu qui éclairait le chemin. Du ciel, tu es descendu pour leur parler sur le mont Sinaï. Tu leur as communiqué des règles justes, des enseignements véridiques, des lois et des commandements parfaits. Par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur, tu leur as fait connaître le sabbat, le jour qui t'est consacré, et tu leur as enseigné les autres commandements de la loi. Tu leur as donné le pain du ciel pour calmer leur faim. Tu as fait jaillir de l'eau d'un rocher pour apaiser leur soif. Tu les as envoyés conquérir le pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos ancêtres, pleins d'orgueil, se sont montrés rebelles. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont refusé d'obéir. Ils ont oublié les merveilles que tu avais réalisées en leur faveur. Ils se sont entêtés. Ils ont décidé de retourner à leur esclavage en Égypte. Mais toi, tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont écriés: « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Leur conduite a été ignoble. Même alors, toi, dans ton amour infini, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne de fumée qui leur montrait la route pendant le jour ne s'est pas éloignée d'eux, ni la colonne de feu qui éclairait leur chemin pendant la nuit. Dans ta bonté, tu leur as donné ton esprit pour les rendre intelligents. Sans cesse, tu leur as prodigué de la manne pour les nourrir et de l'eau pour apaiser leur soif. Durant 40 ans, tu as pris soin d'eux. Dans le désert, ils n'en manquaient de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs pieds n'ont pas enflé. » Corinthiens 9, versets 1 à 18. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas le résultat de mon activité au service du Seigneur? Même si d'autres refusent de me reconnaître comme apôtre, pour vous, je le suis certainement. En effet, puisque vous êtes unis au Seigneur, vous êtes vous-même la preuve que je suis apôtre. Voilà comment je me défends contre ceux qui me critiquent. N'aurais-je pas le droit de recevoir nourriture et boisson pour mon travail? N'aurais-je pas le droit d'emmener avec moi mon épouse, chrétienne, comme le font les apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien serions-nous les seuls, Barnabas et moi, à devoir travailler pour gagner notre vie? Avez-vous jamais entendu dire qu'un soldat serve dans l'armée à ses propres frais? Ou qu'un homme ne mange pas du raisin de la vigne qu'il a plantée? Ou qu'un berger ne prenne pas de lait du troupeau dont il s'occupe? Mais je me fonde pas seulement sur des exemples tirés de la vie courante, car la loi de Moïse dit la même chose. Il est en effet écrit dans cette loi: « Vous ne mettrez pas une muselière à un bœuf qui foule le blé. » Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? N'est-ce pas en réalité pour nous qu'il a parlé ainsi? Assurément, cette parole a été écrite pour nous. Il faut que celui qui laboure et celui qui bat le blé le fasse avec l'espoir d'obtenir leur part de la récolte. Nous avons semé en vous une semence spirituelle. Serait-il alors excessif que nous récoltions une part de vos biens matériels? Si d'autres ont ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous avons tout supporté pour ne pas placer d'obstacles sur le chemin de la bonne nouvelle du Christ. Vous savez sûrement que ceux qui sont en fonction dans le temple reçoivent leur nourriture du temple et que ceux qui présentent les sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette activité. Mais je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas cela pour demander à en profiter. J'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ce sujet de fierté. Je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si j'avais choisi moi-même cette tâche, j'aurais le droit à un salaire. Mais puisqu'elle m'est imposée, je m'acquitte simplement de la charge qui m'est confiée. Quel est alors mon salaire? C'est la satisfaction d'annoncer la bonne nouvelle gratuitement, sans user des droits que me confère la prédication de cette bonne nouvelle. Psaume 33, versets 12 à 22. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard, il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui leur a créé à tous intelligence et volonté, il prend garde à ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses nombreuses troupes. Et si le combattant s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors de danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur, notre secours et notre bouclier. C'est lui, à cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. Proverbes 21, versets 11 et verset 12. La punition de l'insolent est une leçon de sagesse pour l'ignorant, tandis que le sage acquiert de l'expérience par l'enseignement qu'il reçoit. Le juste suit de près ce qui se passe dans la maison des méchants, et il les précipite dans le malheur.
Merci beaucoup, Sabel, pour ta lecture. Permettez-moi de prier maintenant. Père Céleste, je suis ton enfant. Non pas à cause de tout ce que j'ai fait, mais plutôt à cause de ta grâce. Je te remercie et je te demande plus de visibilité pour déterminer le cours de ma vie. Éloigne les nuages et donne-moi une véritable vision de ce que tu planifies pour moi, Seigneur. Aide-moi à comprendre et à accepter aussi ma place dans ton royaume. Je te remercie de m'aimer. Oui, je te remercie de m'aimer suffisamment pour me donner une place dans ce monde. Amen. Chers amis, je vous laisse vaquer de nouveau à vos occupations que vous avez interrompues pour écouter la Daily Audio Bible. Je vous remercie d'ailleurs. Et puis j'espère vous retrouver demain pour la suite de notre podcast.